Donc bonjour, bienvenue au musée de Louvain-la-Neuve. Donc ce musée, il date de la division des universités entre Leuven francophone et Leuven néerlandophone et Louvain-la-Neuve francophone. Donc dans les années 70, en effet, l'université de Leuven comportait déjà un musée. Donc lors de la séparation des universités, il a bien fallu également diviser le contenu de ce musée. Ça n'était pas facile vu les tensions linguistiques, mais ça a été chose faite. Donc ce musée date de 1979 et il a bien sûr été enrichi au fil des années par des dons, des legs et des dépôts d'artistes. Donc aujourd'hui, il y a une collection qui est quand même assez importante. Les collections, elles sont pas, les objets ne sont pas tous exposés. Il y a une partie qui est en réserve et on effectue des roulements assez régulier de manière à le montrer le plus possible au public. Alors une petite anecdote aussi, par exemple pour les livres lors de la séparation des deux universités, c'était tellement difficile que pour tout ce qui est ouvrages, archives, eh bien il y a eu des cas où Leuven a pris les nombres pairs et Louvain-la-Neuve les nombres impairs, ou le contraire. Voilà un peu un exemple de compromis à la belge. Alors ici, on est dans la salle d'Elsem. C'est une salle qui a été créée en reprenant des formes architecturales issues des églises. En effet, on a une espèce de long couloir qui peut faire penser à une nef, et sur les côtés, des petites loges qui peuvent rappeler les différentes chapelles. Alors, cette salle, elle a été conçue spécialement pour ce qu'on appelle la muséologie du dialogue. C'est un choix muséologique fait par le musée de Louvain-la-Neuve, qui est aujourd'hui adopté par d'autres musées, mais c'est vraiment Louvain-la-Neuve qui a été pionnier dans ce domaine. C'est-à-dire que les œuvres ne sont plus classées par thématique, en tout cas plus uniquement, ou chronologie, ou géographie, ou même technique, et ainsi de suite. Mais on les place de manière plutôt à effectuer un dialogue entre les formes. Ça peut être le thème aussi également, mais en tout cas, il y a vraiment une richesse, puisqu'on ne se limite pas à un seul point commun entre les œuvres. Donc par exemple, si on se tourne ici, on a deux œuvres qui dialoguent. Par leur forme, c'est assez clair. Donc, on a un tambour océanien en bois qui est plutôt de l'art, on va dire, primitif avec des guillemets. Et à côté, une œuvre plus contemporaine. Donc, deux choses qui, de manière, enfin, a priori, n'ont rien à voir en commun. Mais si on prend le temps de les observer, il y a des choses qui ressortent, comme le traitement des formes qui est simplifié. Les yeux, par exemple, qui sont le simple disque, très grand, et qui donne un aspect très expressif au visage. Le nez également, qui divise le visage en deux parties, qui part du haut des sourcils et qui descend de manière bien verticale. Ça aussi, ça donne un caractère particulier à ces deux visages. Vous voyez, hein, dans une même logette, on a du bois, une technique au fusain, on a une sculpture. On a autant un Picasso qu'un Somerville, qu'une sculpture rossinienne, mais pourtant, ces œuvres se répondent. Donc ça, c'est vraiment le dialogue. Alors, de là où on se trouve, on peut voir trois ou quatre œuvres vraiment les plus importantes. Peut-être pas d'un point de vue allez, purement objectif, mais en tout cas, les plus importantes aux yeux du public, puisqu'il s'agit d'artistes connus. Comme Delvaux, Picasso et Somerville. Ce qui est intéressant, c'est que Delvaux et Somerville sont aussi représentés dans la ville de Louvain-la-Neuve. Donc, Somerville, c'est un artiste qui a également réalisé une peinture murale près de la rue des Wallons. Et on reconnaît vraiment dans les formes, si on prend la peine de la voir, également une bonhomie dans le visage. Et les gens qui passent devant cette peinture murale et qui viennent au musée reconnaissent directement la ressemblance. C'est aussi un artiste qui a réalisé la fresque dans. La fresque, je me trompe, c'est une peinture murale, c'est pas une fresque, dans la station de métro Ancare à Bruxelles. Ça, c'est aussi une image qu'on a bien en tête. Delvaux, quant à lui, il n'a pas vraiment réalisé d'œuvre pour la ville, mais il y a des reproductions de ses œuvres dans la gare de Louvain-la-Neuve. Et il a été d'ailleurs nommé chef honoraire de la gare. Donc, il a reçu ce titre honorifique à l'occasion d'une fête donnée en son honneur à la gare. Des reproductions qui ne sont d'ailleurs pas très bien placées puisqu'elles sont dans un endroit où peu de gens passent et un endroit qui est d'ailleurs vandalisé, c'est assez glauque et donc ce sont des reproductions qui ne sont pas vraiment mises en valeur. Dans ce cas-ci, on a une œuvre de Paul Delvaux qui est bien mise en valeur, ce n'est pas une reproduction, c'est un original et on observe des éléments qui sont dans vraiment le caractère, le vocabulaire artistique que l'on connaît de Delvaux, c'est-à-dire une présence de femmes, des femmes qu'il traite de manière très particulière, très personnelle. On a souvent dit que la vie personnelle et affective de Delvaux avait influencé sa manière de traiter les femmes. Alors ça, il y a des pour et des contre, des gens qui pensent qu'une œuvre ne doit pas forcément être analysée à la lumière des faits biographiques, d'autres qui pensent qu'au contraire c'est nécessaire. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement les femmes sont toujours assez étranges. Elles ont des yeux très présents, elles ont un sourire parfois mais à peine visible et elles sont toujours presque dans un mouvement qui est arrêté. On a l'impression qu'elles sont presque immobiles, même si elles semblent faire un mouvement, ce mouvement est à peine perceptible. À côté de ça, un élément qu'on retrouve souvent dans son œuvre, c'est la gare, le train. D'ailleurs, il explique qu'il était vraiment touché par la gare d'Otigny, une gare qui est toute proche d'ici, et qu'il l'a beaucoup représentée. Dans ce tableau, on ne voit pas vraiment de gare ou de train, néanmoins, on peut imaginer que cette longue perspective donne accès à une gare, ou ça rappelle également des rails. Et enfin, on retrouve tout ce côté surréaliste par le traitement de la lumière, notamment, avec une femme à droite qui est très éclairée, une ouverture dans le fond qui amène de la lumière, un ciel, on ne sait pas dire si c'est le jour ou la nuit, hein, une source lumineuse qui n'est pas de l'ordre du naturel, on ne sait pas vraiment définir de manière précise le soleil est là ou là. On a également un endroit qui n'est ni fermé ni ouvert, en effet, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre, puisque ces deux femmes sont visiblement enfermées ou dans quelque chose qui est de l'ordre d'une pièce, mais dont le mur ouvre sur un extérieur naturel. À nouveau, extérieur qui débouche sur un intérieur, on peut peut-être percevoir, oui, encore une ouverture dans la fenêtre, donc vraiment un jeu successif sur ces ouvertures. Et j'ai parlé du théâtre, effectivement, dans les œuvres surréalistes, on a souvent cette impression de mise en scène ou de théâtre. Il y a une autre œuvre de Magritte au musée. Magritte, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est également une des œuvres les plus connues du musée, puisque un artiste qui est reconnu par le public. Et dans cette œuvre de Magritte, on a aussi cette femme qui est sur un plancher, avec des rideaux sur le côté, mais qui ouvre à nouveau sur une perspective extérieure. Et donc, à nouveau, on ne sait pas si c'est une pièce de théâtre ou ainsi de suite. Mais au fond, devant les œuvres surréalistes, il ne faut pas forcément définir l'endroit où on se trouve. Au contraire, l'ambiguïté est là exprès pour déstabiliser le spectateur. Et dans les titres de Magritte, on retrouve aussi ce côté qui déstabilise, puisque quand on va voir le titre, on est encore plus perturbé. Par exemple, une œuvre qui s'appelle « Magie noire » va nous montrer une femme nue qui se transforme en statue, donc ça ne nous indique en rien la nature du tableau. On a également des œuvres plus anciennes qui font partie de l'art souvent à thématique religieuse, par exemple cet homme qui est intéressant du point de vue de la conservation aussi des œuvres. En effet, une des missions du musée, c'est non seulement d'étudier et de communiquer, mais c'est aussi de conserver les œuvres. Et cet homme est rongé de verre à bois. En tout cas, il ne l'est plus maintenant, mais il l'a été. En témoignent les nombreux petits trous qui sont en fait autant de portes d'entrée pour les verres. Et en dessous, de ces petits trous, il y a toute une galerie, un véritable labyrinthe, la petite maison en fait des verres. Ça fragilise énormément le bois, il faut donc veiller à surveiller ce type d'œuvre. Il y a un traitement qui est effectué, on injecte dans les trous des produits spéciaux et qui doivent être calculés pour ne pas abîmer le bois non plus. Puis il faut recouvrir le tout de manière à que ça ne se reproduise plus. Puis il y a aussi toute la surveillance de la température du musée, de l'humidité et ainsi de suite, qui sont très importants. Donc il faut mieux prévenir à ce moment-là que guérir. Pour ce qui est de la conservation des œuvres, il y a un laboratoire à Louvain-la-Neuve, un laboratoire qui est lié au musée et à l'université également, et qui s'occupe énormément des primitifs flamands. Donc il y a tout un matériel qui est lié au laboratoire, avec des appareils permettant de faire des radiographies, des ultraviolets et des infrarouges. Et ça permet d'observer l'œuvre et, si nécessaire, d'effectuer des campagnes préventives ou curatives. Voilà.
Eh bien, on commence.
Donc nous voici dans une autre logette qui contient d'autres œuvres et donc un autre type de dialogue. Est-ce que vous percevez le dialogue parmi les différentes œuvres? Alors vous pouvez vous tourner, regarder bien tout autour de vous et me dire quelles sont les œuvres qui dialoguent entre elles et pour quelles raisons.
C'est de là pour les formes géométriques.
Et oui.
C'est de là pour le nu.
Et dans la manière de traiter le nu, on va prendre le nu par exemple. Donc effectivement, ce sont deux personnes qui sont nues et qui comportent un pagne. Est-ce que vous percevez des différences maintenant? Donc on a compris les ressemblances, les points communs. Maintenant, comment les artistes ont-ils traité ces deux formes?
Moi, je dirais que celle-là est plus ornée, avec plus de fioritures, et que l'autre est plus minimaliste ou enfin, épurée, comme ça.
Donc, c'est très intéressant. Effectivement, l'une est plus ornementale, effectivement, on voit la poitrine qui est bien ronde, et dans l'autre cas, c'est plus minimaliste. Et donc, à partir de ce buste minimaliste, on peut rebondir sur les autres œuvres qui sont à côté, qui sont elles aussi minimalistes dans un sens large, donc qui présentent des formes très épurées, des formes qui sont abstraites dans un sens, un buste qui fait appel à la figuration dans l'autre sens, mais des parallèles. La sculpture qui se trouve derrière nous est également à mettre en parallèle avec le buste dans le traitement de la matière, qui est un traitement assez lisse. À nouveau une sculpture abstraite face à une sculpture figurative, mais les ressemblances sont assez frappantes et dans le traitement de la couleur aussi. Et alors enfin, la dernière œuvre qui se trouve au-dessus de nous, qui elle est vraiment minimaliste, en effet, pour la décrire, c'est assez simple. On a trois plans dont le plan central comporte deux traits, un trait plus rond et un trait plus géométrique, blanc. Donc, c'est vraiment la seule profondeur dans l'œuvre. Mais regardez, les couleurs également émettent une profondeur. On a l'impression que le beige est superposé au bleu foncé et le bleu turquoise être superposé aussi, mais de manière moins frappante. Et donc, avec quelques éléments très très simples, on arrive à donner une profondeur. De la même manière, les traits blancs sont interrompus par le cadre, mais notre œil a tendance à imaginer la forme en expansion, donc à compléter les formes. Donc, on n'a plus l'impression d'avoir deux traits, mais un cercle et, alors là, un carré ou un triangle. Et donc là, ici, l'artiste de là-haut joue vraiment avec les formes, avec les couleurs, leur assemblage. C'est vraiment un travail sur l'esthétique, sur la vue. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eh bien, je vous remercie pour cette petite visite et je vous souhaite une bonne journée.